Dans la paracha de Shoftim, il y a, à la montée d'aujourd'hui, c'était la quatrième montée, dans la paracha d'aujourd'hui, il amène un, il dit voilà, vous allez hériter de cette terre, et il amène des mitzvot très connus. Il dit, tu n'apprendras pas l'otilma de la sorte que toi avot agoïm ahem. Tu n'apprendras pas à faire comme les goïm chez qui tu vas. On est les sept peuples qui habitaient ici. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'était pas des peuples, mais c'était des empires qui avaient des comptoirs ici. C'est pas des petites tribus là, comme les Palestiniens, c'est des bouibouis, c'est des gens nuls quoi. C'est des vrais, des immenses empires qui étaient comme un comptoir ici. Et donc ils étaient effrayants. Et en même temps, ils avaient des coutumes à eux. Donc la Torah nous met en garde tout le temps, surtout dans le Sefer Dvarim, de ne pas faire comme les horreurs qu'ils faisaient. Et elle vous cite les abominations que faisaient les goyim. Lo yimatse vecha ma'avir beno vito ba'esh. On ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui va faire passer son fils ou sa fille dans le feu. C'est la fameuse. C'est une coutume des Phéniciens. Les Phéniciens habitaient dans le nord d'Israël, au Liban d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une ville du Liban qui s'appelle Sidon. C'était la capitale des Phéniciens. Sidon. C'est un peu plus loin que Tyr. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient deux brasiers de feu et ils faisaient passer l'enfant, le prêtre faisait passer l'enfant entre les deux. Alors il y en a qui disent qu'il mourait de ça, soit il brûlait par la tête, soit par les pieds, il mourait de ça, soit il mourait pas. C'était stable la cérémonie de faire ça, quoi. Quelque chose d'effrayant, quoi. D'accord? Alors pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils estimaient que le dieu en question a besoin de sang, quoi. Donc ils voulaient qu'on offre ses enfants en sacrifice. D'accord? Alors vous allez dire, oh, c'est des vieilles coutumes, vous savez, personne ne fait ça aujourd'hui. Ouais. Les chrétiens faisaient ça, et il y avait beaucoup de juifs qui ont repris ce miracle après. Ça s'appelle Molech. Les Phéniciens, ils appelaient ça Moloch. Donner son fils ou sa fille à Moloch. Ouais. Et la Torah, elle appelle ça Molech. Et donc, dans l'histoire, ce minag, il reste, en fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à donner leurs enfants au Dieu, quoi. Ouais. Quand, par exemple, vous prenez un enfant et vous dites qu'il vaut mieux pas qu'il apprenne la Torah, il vaut mieux qu'il apprenne les sciences, etc., parce que sinon il va soit pas se débrouiller dans la vie, ben vous le condamnez à Moloch. Vous le tuez spirituellement pour satisfaire le dieu de l'Occident qui est l'informatique, le mathématique. D'accord? Alors qu'en vérité, chacun sait que l'école, c'est pas fait pour apprendre un métier, c'est fait pour apprendre des bonnes midot. À l'origine, l'école, c'était fait pour apprendre des bonnes midot. Il y a pas très longtemps que l'école est devenue une école professionnelle. Mais avant, c'était une école pour vivre. On apprenait à bien se conduire. Il y avait des cours de morale et des cours de. Voilà, éducation. Donc en finesse, ça veut dire aujourd'hui donner ses enfants à Molaire. Les jeter dans un système en disant, mais il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Kosem Ksamim. Kosem Ksamim. Rachid vous dit que ça veut dire Kosem. C'est qu'il prenait un bâton, Kosem Ksamim. Et il jetait le bâton, et de la façon dont le bâton tombait, il faisait ou il faisait pas une chose. Si j'étais le bâton en l'air, et que, selon la façon dont il retombait, ils allaient quelque part ou ils n'allaient pas quelque part. Et c'est relié avec la mitzvah suivante, qui s'appelle Me'onen. Me'onen, ça veut dire calculer les saisons. C'est l'astrologie moderne. C'est de dire aujourd'hui mercredi, si vous êtes du bélier, évitez de sortir à 5h du matin. Si vous devez rencontrer un avocat, attendez plutôt la semaine prochaine. Ça s'appelle Me'onen, calculer les onot, les temps propices et les temps pas propices. C'est vrai que la Torah fait ça aussi. Elle vous dit en Adar, si tu as un din avec un goy, fais-le en Adar. Si c'est en Av, repousse-le. D'accord? Si tu veux te marier, il vaut mieux se marier dans les premiers jours qu'en fin de mois. Donc on voit bien que la Torah elle-même, elle fixe aussi une, elle prétend que qu'il y a des temps propices à faire une chose et des temps pas bons pour faire une chose. Donc là, on parle de quoi? Quand c'est des choses qui sont, arbitraire. Quand c'est la Torah qui vous le fixe, vous pouvez lui faire confiance. Mais quand c'est stable, l'astrologue du quartier qui vous le dit, vous n'avez pas le droit de vous fier à ça. Dans Figaro, dans Elle, dans tous les journaux des dentistes, il y a ça. Francesco Valdner, ils appelaient. Ils vous racontaient qu'ils ne sortaient pas le mercredi si vous êtes du bélier, ne sortaient pas le jeudi si vous... Ouais, aujourd'hui c'est bon pour vous à chercher du travail, etc. Donc ça s'appelle Me'onen. Et le suivant c'est Menachesh. Menachesh aussi c'est une interdiction. C'est quoi? C'est de voir des signes dans les choses qu'on fait, quoi. Alors, comme il dit le Midrash, votre pain est tombé de la bouche. Vous dites ah. Mon pain est tombé de la bouche, donc il y a Jean-Marc qui pense à moi maintenant. Ou il y a un cerf qui vous a croisé dans la rue. Ah, il faut pas aller au rendez-vous. Ça, c'est le nichouche, ça s'appelle. C'est interdit, ça. De baser son action en fonction de symboles. Hein? Vous dites, je sais pas, si en montant dans la rue, il y a plus de 10 personnes à la station de bus, je ne vais pas en vacances cette année. C'est un rapport. Je vais faire nichouche. On a le droit de faire du nichouche à midi. À midi, c'est-à-dire... Non, à midi, c'est-à-dire de vérifier une mida de quelqu'un, ou une mida de quelqu'un.
Ah oui.
Vous allez en chidour avec un monsieur... Et il vous dit, non, je ne paye pas le café, c'est trop cher. Bon, vous dites, il est radar. C'est pas de la divination, c'est que vous avez vu qu'il est radin. Ron? Oui, vous me dites, j'ai acheté un coca pour moi, mais je n'ai pas assez d'argent pour vous. D'accord? Donc ça, c'est pas du nichouche. On parle des choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Vous dites, s'il y a une voiture blanche devant, j'écoute pas le chauffeur au Shoshana. Que sais, moi? Donc il y a des milliards de gens qui font ça, d'accord? C'est très fréquent dans le comportement des gens. Quand les gens ne savent pas quoi faire, ils font ni rouge.
Et si là, c'est que
ces gens disent que ça se gare pas pratique. Ben oui, bien sûr, ça se gare pratique, mais ça s'appelle ni rouge. C'est une idolâtrie. Non, parce que se gare pratique, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement. Maintenant, comment l'interpréter? Ça, c'est pas toi de le faire. Qu'une voiture blanche soit garée devant, c'est se gare pratique. Qu'est-ce que je dois en tirer? C'est pas à toi de dire, ah, puisqu'il y a une voiture blanche, donc je n'écouterai pas le chauffeur. Ashgaha pratit, c'est quelle est la loi? Bon, mais je ne peux pas en dire plus. Si dans un mariage, vous vous dites, bon, je fais la diète, je ne mange pas ce soir. Puis vous vous dites, bon, je vais me laisser quand même faire, très sympathique ce poulet. Vous demandez à la serveuse, elle vous sert un poulet, elle renverse. Dites, bon, alors c'est un signe que je ne dois pas en manger. Bon, il y a qui font ça pour s'amuser. Dites, bon, ben, puisqu'il est tombé, alors je ne mange pas. Ça va. Et si vous basez une mitzvah ou une action de votre vie pour ça, ça s'appelle Nichouch. D'accord? Et la quatrième, qui est aussi grave, c'est Mechashef, c'est la sorcellerie carrément. Après, il y a Chover Chaver. celui qui faisait parler les, qui jouait avec les serpents. Ça se fait encore beaucoup en Inde, en Afrique, dans les pays noirs, dans les îles. Shoel Ovidoni, les gens qui appellent au vaudou et compagnie. Et le dernier, c'est Doresh Elameti, de faire parler les morts. Doresh Elameti, c'est d'aller déranger un mort pour lui demander des choses, quoi. D'accord? Ce qu'ils appellent, les Israéliens, ils appellent ça science. Mais non, quel rapport maintenant? Voilà, vous faire du spiritisme, ça s'appelle. Vous allez sur une tombe, ou alors vous faites vous éteignez les lumières et vous invoquez l'esprit de.
Non,
vous rigolez, mais il y a des milliards de gens qui font ça.
Ah bon?
Ben là, d'ailleurs. Il y a des associations entières de ça. Ils font parler les morts, ils font parler les. Ça s'appelle déranger les morts, on n'a pas le droit. Alors vous allez dire, non, comment ça se fait? Le Harizal, tous les tombes des tzadikim qu'on a en Israël, c'est le Harizal qui les a dévoilées. C'était tous des tombes de Cheikh arabes à l'origine. Il n'y a pas écrit Rabbi Shimon, Rabbi Tarfon, Rabbi Meir, il n'y a pas écrit tout ça. C'est le Harizal, quand il est venu en Israël, qui s'est mis devant chaque tombe, et le Tana ou le Rav en question, il a dit je suis là, c'est moi qui suis là. Donc c'est grâce au Harizal qu'on sait ça. Sinon, on croirait encore que c'est des tombes arabes, en fait. Ben, il voulait s'approprier la comment on appelle ça, la souveraineté sur ces endroits. Ouais. Comme le Kéber de Yosef ou Rachel, tous ces endroits. Ouais. Donc alors voilà, comment ça se fait, voilà, Harizal, il a dit sur les tombes et Rabbi Shimon lui a dit c'est moi qui suis là, Rabbi Tarfon lui a dit c'est moi qui suis là. Et le Rabbi, quand il allait sur la tombe de son beau-père, c'est son beau-père qui lui racontait tout. Il va y avoir la guerre de Kippour, il va y avoir les grandiments, il va y avoir ci, fait ça. Et... toutes les réponses que le Rabbi donnait, c'était toujours parce qu'il allait sur la tombe de son beau-père. Pour les maladies, pour les mariages, pour les guerres, pour les trucs. On n'a pas le droit d'aller dorer chez la médecine. Pourquoi avait-il le droit de communiquer ou le Rabbi avec son beau-père ou...
C'est ceux qui
viennent. Bravo. Kol hakavod, vous êtes des chachamim. Toi, tu n'as pas le droit de déranger le mort, parce que le mort, il est dans son univers, et tu n'as pas le droit de le bousculer pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il. Mais si toi, tu vas sur la tombe du mort, et que tu as le mérite que le mort te parle, tellement tu es attaché à lui, par exemple. Mais non, mais vous l'invoquez pas. Vous faites pas une opération de sorcellerie pour le déranger. Rien à voir. Voilà, c'est ça. Vous me dites, entre Doresh, c'est aller à la recherche de, exiger que le mort vous réponde. Donc vous le dérangez. Alors la Torah finit en disant, toutes ces choses-là sont des abominations. Et donc, tu ne frappes pas ces choses-là sur la terre que Dieu te fera hériter. Et la paracha finit en disant, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Rachid explique. Marche, bitmimut, c'est-à-dire simplement, et attends qu'il te réponde. Et ne fais pas des enquêtes après l'avenir pour savoir ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Il faut être tamim avec Dieu. Donc c'est une mitzvah d'être tamim. Intègre, simple, sans complications. Et donc, c'est, vous savez très bien qu'on a la parasha de Shoftim, on est toujours pendant cette période de Elul. Toujours en Elul. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le Chodesh d'Elul, Elul, ce truc-là? Parce que justement, le Chodesh d'Elul, c'est le mois du bilan. On fait le bilan sur toute l'année. Comme dans les affaires, en fin d'année, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Alors, on peut arriver à une situation où, en faisant le bilan, on se dit, ben voilà, j'ai toujours pas, ça j'ai pas, on voit ce qu'il, qu'il nous manque telle et telle chose. Donc, on aurait tendance à justement utiliser les méthodes, allez voir, Mekoubal, dites-moi pourquoi j'ai pas ça, Mekoubal, il va dire, c'est vous avez le mauvais œil, donnez-moi 300 équelles. Je vous donne une Kabbalah, de toute façon. Hein? Ou aller. Donc, on va toujours essayer d'utiliser des méthodes. Ouais. Pourquoi bien? Ils vous disent, quand vous étiez petite, c'est ce que vous dites ici, la Torah. Vous dites Tamim, sois Tamim. C'est-à-dire, prie le bon Dieu et ne cherche pas à connaître l'avenir. Un vrai Mekoubal, Lachon, si vous aviez été voir le Baba Saleh, il ne vous aurait pas dit. Voilà ce qui va t'arriver. Il t'aurait dit, commence à faire Shabbat, c'est ça, là, habillez-vous comme il faut, fermez le magasin, nanana, et Dieu vous aidera. Voilà ce qu'il disait, bah, vous savez, je dis pas, c'est le mauvais œil, c'est le mauvais truc, et toi tu n'as rien de mal, c'est les autres. Les vrais Mekoubali, ils vous diront ça. Ils vous diront, faites attention à tel misva, si vous faisiez attention à la cache-route, vous ne serez pas malade. C'est ça qu'il vous répondra, le vrai Mekoubal.
Et un vrai Mekoubal,
un vrai Mekoubal. Si vous répond ça, oui. Si vous répond des trucs à dormir debout. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, ne rentre pas là-dedans. Tamim qui est, soit Tamim avec Dieu. C'est ça le sujet de Elul. Le sujet d'Elul, c'est de changer, c'est de rajouter dans la tzedaka, dans la prière, dans l'étude, dans les bonnes actions. C'est comme ça qu'on change son destin et son... C'est des choses qui vont pas. Le tsinor, c'est les bonnes actions. Dans beaucoup de Higrot Kodesh, le rabbi répond ça. Il y a des gens qui disent, il y a une ségoula de ci, il y a une ségoula de ça. Des tas de ségoulotes, oui. Vous savez qu'il y a des livres de ségoulotes. Alors, effectivement, le rabbi dit qu'on ne peut pas aujourd'hui connaître les ségoulotes, puisque les ségoulotes du Chida, par exemple, elles ont été écrites pour un public spécial, pour une période spéciale, pour une maladie spéciale de la génération. Les ségoulottes de Rashi, c'était pour un autre monde, etc. Donc, si vous vous amusez à faire les ségoulottes, ça veut dire que vous croyez que c'est, vous avez rapport avec ça. Alors peut-être que vous n'avez rien à voir avec ça. Et le rabbi répond toujours, je ne sais pas ce que c'est cette ségoula, mais il y a une ségoula connue et expérimentée, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Point final. C'est tout. C'est la ségoula la plus efficace pour avoir toutes les brachot du bon Dieu. Et c'est pour ça qu'on lit ça dans ce parasha-là. Shoftim le Shotrim. Le vrai jugement, le vrai mishpat des Shoftim, c'est soi-même qui se le fait. Donc, rajoute des bonnes actions. Voilà. Si tu ne sais plus l'action, fais des bonnes actions sans savoir ce que tu fais. Et tu vas voir que tout va changer. Comme il disait le Ayom Yom d'avant-hier. Le petit livre d'Ayom Yom, il disait, dans la médecine, il y a deux façons de soigner. Soit vous soignez le membre qui est frappé, soit vous renforcez les autres membres. Soit d'attaquer le membre malade et s'occuper de lui, soit de ne pas s'occuper du membre malade. S'occuper de renforcer tous les autres mondes. Et il dit de la même façon dans le Rochaniut, c'est pareil. Soit tu sais quel est le problème que tu as, soit tu sais bien le circonscrire, dire voilà, j'ai des problèmes de parnassa parce que ça. Ou tu sais exactement pourquoi tu as un problème et tu vas le soigner. Si tu ne sais pas, alors occupe-toi de renforcer tout le reste que tu fais. Donc automatiquement, en renforçant tout le reste, ça va soigner ce membre malade. Parce que dans, en Elul, on vous dit, il faut essayer de se réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc. Mais des fois, on n'est pas capable. On est trop dans le brouillard. On ne sait pas définir exactement son caractère. Quand les autres vous le disent, vous ne l'acceptez pas. Quand la Providence vous le fait savoir, vous n'avez même pas fait attention. Donc comment je sors de là? Je vais traîner mes problèmes encore toute ma vie. Alors on dit, non, ne te casse pas la tête. Renforce les choses que tu peux renforcer. Et automatiquement, le membre malade se guérira. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne cette injonction. L'homme a toujours tendance, oui, shalom arshav, de vouloir la paix maintenant. Quoi. Et ouais, l'homme veut toujours les choses maintenant. Il veut des solutions. Et très souvent, on sait très bien, quand on est un peu sage, qu'une solution rapide est plus grave que pas de solution du tout. Qu'en voulant chercher une solution rapide, on va devant plus d'ennuis qu'en laissant la chose dormir. Comme sont spécialistes les dirigeants israéliens, hein, de vouloir toujours trouver des solutions. Alors, rien demander. S'il n'y a pas de solution, ne t'occupe pas. En cherchant une solution, tu aggraves les choses au contraire. Et donc, la même chose, l'homme veut faire ça. Il n'arrive pas à régler son problème avec Dieu. Dieu ne m'envoie pas ce que je veux. Comment faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une solution rapide. C'est quoi les solutions rapides? C'est ça. C'est de donner son fils à Molaire, d'invoquer les esprits, de faire parler les morts, de faire de là du rapide, du quelque chose qui est efficace. Alors qu'en vérité, pourquoi c'est interdit de faire ça? Si c'était bidon, la Torah vous l'aurait même pas dit. Vous auriez dit, on va pas se perdre son temps à écrire des psukim pour des méthodes qui n'ont pas d'efficacité. Donc c'est sûr que c'est efficace. Les gens qui font parler les morts, ou les gens qui vont voir les sorciers, ou qui font la divination, c'est sûr qu'ils ont des réponses. Sinon, ils ne le feraient pas. Ça ne tiendrait pas des millénaires si c'était bidon. Pourquoi c'est interdit? C'est parce qu'en vérité, ça te règle le problème momentanément, mais en vérité, tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème à la longue. Parce que le vrai problème, c'est la tchouva, la Torah et Masim Tovim. C'est l'accomplissement des mitzvot, la vraie solution. C'est pas le reste. Vous comprenez? Donc cette paracha, elle est là pour te voir te confronter entre solution immédiate qui est automatiquement du tordu, force du mal, ou une solution à long terme qui va payer. Et qui est basé sur la confiance en Dieu. Parce que la Torah vous dit, il ne peut pas y avoir de mal qui descend du ciel. Donc s'il y a du mal qui descend, c'est que c'est toi qui l'a fait mal. C'est toi qui l'a tordu. C'est comme si tu récoltais de l'eau de pluie dans un seau dégoûtant. Comme le seau est dégoûtant, l'eau elle va dégoûtante. Ah, tu vas dire, ah, c'est ça l'eau de pluie, c'est, je voulais me laver la figure avec, c'est tout sale. Ah oui, mais tu as pris un seau qui est sale. Tu allais prendre un truc qui filtre, propre. Donc tout ce qui descend du ciel ne peut être que bon. Mais encore faut-il être un keli pour le recevoir. Un réceptacle. Ce n'est que ça qui compte, c'est d'être un keli. Donc la base, c'est la foi, la confiance. Et le reste, c'est l'action concrète. Même s'il n'y a pas de confiance et pas de foi, bah, au moins qu'il y ait une action concrète. Par le principe que nous connaissons tous, que Dieu ne reste jamais redevable. Je vous ai dit ça l'autre fois, je vous le répète, il y a écrit dans le Rambam, dans une des lettres du Rambam, il dit que le fameux idolâtre Yéravam, Jéroboam, le roi Jéroboam, il a écrit sur lui qu'il a fauté et qu'il a fait fauter le peuple juif. Il a empêché les gens de monter à Jérusalem, il a installé des idoles sur la route de Shrem, il a fait tuer des milliers de gens, etc. Donc c'est vraiment le roi le plus rachat qui soit. Et le Rambam il dit, Yérovam, il payera même le fait qu'il n'a pas fait Eruv Tavshilin. Quand la fête, comme cette année, les fêtes vont tomber jeudi, vendredi, samedi. Toutes les fêtes en toute la reine vont tomber 3 jours d'affilée. Donc pour pouvoir cuisiner pour le Shabbat, vous êtes obligé de faire un Eruv avant. Donc préparer un plat avant pour pouvoir vous autoriser à cuisiner le vendredi pour le Shabbat. Nous, le problème se pose que Rosh Hashanah, parce que c'est ici, on a 3 jours. Mais après il n'y a pas 3 jours. Après, il y a la fête, Chol HaMoed et Shabbat. Mais en Chutz La'aretz, c'est 3 jours. 3 fois. Rosh Hashanah, Sukkot et Shemini Atzeret. Donc 3 fois, il faudra faire Eruv Tavshilin pour en Chutz La'aretz. Donc vous auriez dit, bon, c'est vraiment pas une mitzvah très compliquée, ni très grave. Et si tu n'as pas fait d'Eruv Tavshilin, tu peux quand même cuisiner. Que le rab de la ville l'a fait, ou ton voisin l'a fait, etc. Et on dit que Yerava Ben Nevat, il payera aussi pour ça. Je me dis, attends, mais avec tout ce qu'il a fait de grave, de faire tuer des gens pour pas qu'ils montent offrir les sacrifices à Jérusalem, d'instaurer des hôtels d'idolâtrie sur la route de Samarie, d'inciter tout le peuple à fauter, et de se révolter contre le royaume de Yehuda, ça c'est pas suffisant, il faut en plus qu'on le fasse payer au Tavshilin. Il dit oui, parce que Dieu, il te prend sur chaque chose. C'est pas parce que tu lui dois 1 million de dollars qu'il va te dire le shekel, je ne le veux pas. Tu payeras 1 million de dollars et le shekel. Et dans le bien, c'est pareil. Dans le bien, c'est pareil. Tu ne seras pas récompensé que pour les grandes choses que tu fais, mais même pour les petits détails de bien que tu fais, tu seras récompensé aussi. On va pas te faire un prix de gros. Ah, tu as fait Yom Kippour, quoi la cavotte. Mais le fait que tu as donné à Zdaka une vieille de l'autre fois, ça, tu n'auras pas de récompense là-dessus. Non, même ça, tu auras aussi une récompense là-dessus. C'est-à-dire que les grandes choses et les petites choses sont comptées. C'est important. Donc ça veut dire que quelqu'un, il vit, et puis voit qu'il... Son matzav n'avance pas. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme dirait Brassens, ça rentre. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Alors on te dit, là, justement, ce que tu as fait au bon Dieu, mais tu n'as pas fait assez, justement, au bon Dieu. Rajoute encore. C'est comme une balance. Rajoute encore. Peut-être qu'il suffit encore quelques grammes et ça va faire basculer la balance. C'est ça le chidouche. Mais ne prends surtout pas cette éventualité de dire je vais essayer de voir cette sorcière ou ce truc ou ce... Je connais une femme très religieuse, elle me donne des ségoulottes et tout. Il y a plein de gens qui font ça. Le fil rouge, le fil blanc, ce que je sais moi. Mais quand on vous répond ça, vous achetez du fil rouge et vous leur vendez sans shekel. Et les gens sont tellement bêtes, ils vont les donner. Comme ça, eux, ils n'auront pas de solution, mais vous en aurez, vous, pour payer vos factures.
Ah ouais.
Quoi? Pourquoi c'est honteux? Profitez de la crédulité des gens. L'Europe des gens sont des idiots. Vous exploitez ça. Vous faites très rabais de scène comme ça, vous voyez. Il dit, oh non, dit, pourquoi veux-tu un fil rouge? J'en ai dans mon sac. Et j'ai prié dessus. Et je ne sais pas si on veut qu'il y avait Rachel. Non, j'ai une autre ségoula que le Rav Vintel m'a donné. Et top! 100 shekels. Et il vous donne. Et il vous donne même 100 euros. Tellement ils sont bêtes. Ça marche. Si vous lui dites de donner de la 100 shekels à Tzedaka, il va dire, non, j'ai pas. Et puis il a qu'à travailler. Mais 100 shekels pour acheter un fil rouge, ils le feront. En tous les cas, vous êtes honnête. Mais il y a des milliers de faux rabbins et de faux kabbalistes qui exploitent ça dans le monde. Il y a des tas de gens qui ont besoin de ça. Ils s'accrochent à ça, quoi. Il y a plus de sorciers et sorcières en Europe que d'églises et de mosquées. La plupart des gens sont malhonnêtes. Les hommes sont malhonnêtes. Je vous dis, si c'est pour vous dire... Pour renforcer votre pratique des mitzvot, c'est bon. Si c'est stable pour vous prétendre, pour vous dire j'ai trouvé la solution, c'est pas toi qui es responsable, c'est le mauvais œil de ta voisine d'en haut. J'ai pas de voisine. Non mais... doit y avoir une voisine quelque part. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous ne laissiez pas voir les kabbalistes, ils iraient voir les goïms carrément. Ils iraient voir les cartons anciennes et les... Alors ils disent, bon, au moins... Voilà, parce que les gens sont désespérés, alors ils... Non, je vous dis, les gens cherchent la facilité et la rapidité. Si je vous dis, mettez la tzedaka, parce que peut-être dans 10 ans vous deviendrez riche grâce à ça, vous dites, dans 10 ans. Alors que la sorcellerie, ça vous propose du tout de suite. C'est pour ça que si vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il ne faut rien de manger chez lui. Il peut vous mettre de la sorcellerie dans les gâteaux, dans les trucs. Il y a des femmes comme ça qui font ça pour... Quand une fille, elle veut pas se marier avec leur fils, elle prend de la sorcellerie à la fille pour que le garçon se marie avec la fille. Vous inquiétez pas, il y a des tas de trucs. Il y a des livres de recettes. Ouais. Du sang de grenouille, du sang de crapaud, du gel de chauve-souris, de l'urine de chat. Mais bien, ça marche. Il y a des gens comme... Je connaissais quelqu'un qui allait se marier avec une fille parce que... En fait, c'est sa belle-mère qui voulait le coincer, quoi. Il fallait l'exorciser, quoi. Alors, même quand on a une grande armature de Torah, des fois, ça prend.
Non.
Comme moyen de... Je vous dis, ne sous-estimez pas la force de la sorcellerie sur les gens. Le marc de café et compagnie, tout le monde fait ça. Donc, on a mis votre. Quand les gens vous disent tu as eu un mauvais œil ou tu as un mauvais truc, un mauvais œil ne peut s'attraper que si on lui donne la prise. Si on ne donne pas de prise, il ne peut pas attraper. Voilà, donc c'est le conseil qu'on donne à Elul, qu'il y a un chemin qui est long, c'est le chemin de la tchouva et des bonnes actions, d'être intègre avec Dieu. Il est long, mais il est court. Parce qu'en vérité, on fabrique un keli très solide, pour faire des enfants de Dieu. Pour soi et les descendants, quoi. À l'éternité. Alors que celui qui utilise la sorcellerie, sur le coup, ça peut être un chemin court, mais en réalité, c'est un chemin long, parce qu'il a. Il a colmaté la brèche sous avec une gomme, et qu'il y a le moindre truc, ça va retomber. Et plus les catastrophes, ça peut engendrer sur les descendants. Voilà. Pas de question. Non, c'est pour ça qu'en Elul, il faut profiter de la... Voilà, c'est une bonne période. Il fallait pas chercher les calculs des périodes et tout. La Torah, elle dit que le mois d'Elul, c'est un mois propice. Voilà. Voilà. Donc, la moindre action bonne, elle a des répercussions beaucoup plus fortes. Elle a un plus grand écho. Il suffit de prendre les choses en main. Ah, vous savez très bien que je poursuis.
Toi, tu rentres pas comme une avocate à côté. Je sais pas ce que j'ai pu lui faire à ce
bonhomme. Toi, ne rentre pas dans une avocate à côté. Parce que vous êtes une grande sadéquette, Laura. Donc les forces du mal vous poursuivent. Et si vous voulez qu'elles vous poursuivent moins, parlez moins aussi. La parole, elle a tendance à fabriquer des... Non, mais quand vous parlez pas de lui, mais vous parlez d'autres. Quand vous parlez trop haut, et donc ça provoque que vous entraînez avec vous des mauvais anges. Les anges de la parole que vous fabriquez, ils vous suivent. Voilà, badaï. Que si les enfants recommencent, continuent la tradition. Sinon, chacun est jugé d'après son matricule. Pourquoi la première? Chacun pour soi. C'est ce qu'elle dit. Les enfants payent pour les parents que si les enfants font la même chose que les parents. Et s'ils changent le chemin des parents, c'est ceux qui ne vont pas payer pour les parents. Au contraire, on défend les parents. Parce que tant que la personne... Voilà, donc tant qu'un individu n'est pas majeur, il n'existe pas en fait. Il fait partie des meubles de la maison. Parce que lui n'a rien à voir là-dedans, l'enfant. C'est pas qu'il a fauté et eux payent. Non, c'est eux qui ont fauté à travers lui. Jusqu'à 13 ans ou 12 ans, les gens ne sont pas pénalisés. Et jusqu'à 20 ans, ils ne sont pas punis. calcul que les gens doivent faire. Si vous perdez un, si vous perdez de l'argent ou cassez quelque chose ou que vous avez la moindre perte, c'est qu'en vérité vous avez fait une faute. On vous a repris de l'argent qu'on aurait dû vous donner. Donc la santé ou les enfants, etc., font partie du même domaine. C'est pas, ça n'a rien à voir avec eux, ça a à voir avec vous. Après arrive à l'âge adulte. Chacun pour soi.
Quand il n'y a pas de nom, bien ou mal, il n'y a pas de chiffre bien ou mal, il n'y a pas
vous pouvez calculer le calcul de votre nom. Alors, mais dans ce calcul-là, il faut pas compter les dizaines et les centaines. Par exemple, la lettre Noun, faut pas dire 50, faut dire 5. Ou la lettre Tav, faut pas dire 400, il faut dire 4. Donc quand vous calculez, il ne faut pas que ça fasse 2. Si ça fait 2, c'est une catastrophe. Oui, vous en rajoutez, mais après vous additionnez là. Et comme il avait des... Nadav, ça fait 2. Donc c'est très mauvais. Il a téléphoné à l'armée. Il a demandé à un spécialiste des... Comment on appelle ça? Des statistiques de l'armée. Et il lui a dit, quel est le prénom le plus fréquent chez les gens qui sont morts à l'armée? Elle lui a dit, écoute, il faut que je te réponde dans 3 jours parce que dans les marchés vifs, on a les noms de famille. Mais les prénoms, il faut que je te retrouve le truc. Alors, il a dit, je te rappelle en 3 jours. Et tac, c'est tombé la gueule. Il avait une intuition que c'était un prénom tellement grave. Et c'est vrai que dans tous les livres. Donc, c'est sûr qu'il y a des prénoms négatifs. Donc, les khatriyat, t'amuses pas à jouer avec ça. Mais si que Dieu préserve, quelqu'un a eu un nom, comme vous, Rachel. C'est un nom très dur en général, les Rachel, parce que la première Rachel, elle a bavé. Donc les Rachel, vous voyez, comme vous, elles en bavent en général. Ouais, elle a toujours des problèmes avec les enfants, les machins. Donc tu vas dire quoi? Alors il faut pas que donc elle a un autre nom avec. Même si on a un nom qui est dur à porter, par la Tchouva, les Mazel Tovim, on enraye. Au contraire, on transforme en bien. Rachel, c'est aussi, ça peut être la brebis aussi, c'est pas seulement que la femme de Jacob. C'est la brebis, donc c'est-à-dire la laine, ça veut dire le blanc, la pureté, on peut trouver mille choses. Chaque chose peut avoir le contraire et le... Et c'est la même chose pour un chiffre, c'est la même chose pour une maison, c'est la même chose pour tout. La lettre He, parce que la lettre He, c'est la femme, oui. Les femmes n'ont pas la lettre He. Ah, le nom de Dieu. Encore une fois, je vous dis, il ne faut pas s'attacher à ces trucs-là. Tamim, tiye, imachem, elokecha. Dans la Gemara Sota, à la fin. Dans le mieux, c'est le Maharal de Prague, voilà. Si vous avez le temps, lisez le Maharal de Prague, il vous explique tout. Dans le livre qui s'appelle Netzach Israël. Netzach Israël. Il vous raconte la situation du monde avant la venue de Mashiach et comment le Mashiach doit être, et ce qu'il doit faire, etc.
Voilà, je vous remercie de votre attention.